RCF.
Aliénor d'Aquitaine, Henri II, Jean sans Terre, Richard Cœur de Lion, des noms dont on pourrait penser qu'ils sont légendaires ou qu'ils font référence à des mythes. Ce n'est pas tout à fait faux, parce que ces personnages ont inspiré de nombreux ouvrages, des films ou des fictions, mais ils n'en sont pas moins des personnages historiques dont les vies sont connues, renseignées, retracées. Tous ces personnages sont des Plantagenets, une des dynasties les plus puissantes entre les XIIe et XIIIe siècles, à qui vous consacrez un livre paru aux Presses universitaires de France à Maurice Chauhou. Bonjour.
Véronique Alzieu, bonjour.
Vous êtes donc historien, spécialiste d'histoire médiévale, et vous consacrez donc un livre aux Plantagenets intitulé « Les Plantagenets et leur cours 1154-1216 ». Pourquoi cette dynastie et qu'est-ce qui vous a fasciné chez tous ces personnages que nous allons évoquer dans cette émission ?
L'origine du projet remonte certainement à la thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a 20 ans, qui m'avait amené à réfléchir sur ce que j'avais appelé à l'époque l'idéologie Plantagenet, donc tout un ensemble de mythes, de thèmes politiques susceptibles d'aider les Plantagenets à gouverner tous ceux qui dépendaient d'eux. À partir de cette histoire très politique et culturelle, j'ai voulu étudier beaucoup plus les hommes, en fait, qui étaient derrière le gouvernement des Plantagenets, à commencer bien sûr par les souverains Plantagenets eux-mêmes, mais aussi tout leur entourage, puisqu'il apparaît que cette cour Plantagenet est numériquement la plus importante, en fait, de la fin du XIIe siècle et du tout début du XIIIe siècle.
Qu'est-ce que ça veut dire numériquement ?
Ça veut dire quantitativement et même derrière qualitativement. Quand on regarde quantitativement le nombre de personnel qui travaille pour les Plantagenets, soit à temps plein, soit on dirait nous aujourd'hui à temps partiel, on se rend compte, et ça va de pair bien sûr avec l'immensité des territoires qu'ils gouvernent, on se rend compte que ces hommes sont vraiment nombreux, représentent plusieurs générations de personnel, proviennent d'horizons très différents, ont des conditions sociales différentes. C'est cet amalgame, si vous voulez, qui fait de cet objet, la cour, un objet scientifique vraiment intéressant.
Mais du coup, est-ce qu'on peut se reposer, quand on est chercheur comme vous, quand on est historien, sur des documents, sur des archives ?
C'est vrai que dans le cas de la cour Plantagenet, on a la chance d'avoir des sources très nombreuses, aussi bien sûr des actes de la pratique, que des chroniques, que de la correspondance, des deux côtés de la Manche en plus, ce qui participe de la richesse de la documentation. Donc, avec la cour Plantagenet, l'historien n'est vraiment pas malheureux. C'est une des cours les plus documentées de l'histoire médiévale de cette époque.
La particularité de cet empire, c'est qu'effectivement, il se situe d'un côté sur le territoire français et puis l'Angleterre.
Oui, c'est une dimension tout à fait essentielle. Il faut bien comprendre qu'au départ, les Plantagenets sont des princes français, de langue française, de culture française qui, par héritage, par l'action des armes, par également la diplomatie et puis quelquefois l'argent, dilatent complètement leur aire de domination d'origine pour finalement s'implanter à la fois à la tête d'un royaume, le royaume d'Angleterre, et en France, à partir du berceau familial qu'est l'Anjou.
Compagnon, ferai un vez disconvenient. E ora in mais de fudats noi e de sent, e ger tot mesclats d'amour e de gioia e de jovent. E teniat lupul vilant in non entent, quins en son cours volontiers res nol apprent, greu partir si fai d'amour, qui la trouve à son talent.
Alors, dans quelles circonstances, justement, est-ce que cet empire se déploie et les Plantagenets deviennent aussi puissants ?
Il faut remonter, en fait, aux années 1152-1154 pour comprendre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'aventure personnelle de Henri, comte d'Anjou, fils de Geoffroy le Bel. Geoffroy V, lui-même donc époux de l'impératrice Mathilde, qui est en fait une des candidates au trône d'Angleterre après la, la mort donc du roi d'Angleterre Henri Ier Beauclerc en 1135. Donc cet Henri se trouve à la conjonction de possibilités donc en termes d'héritage extrêmement importantes, puisque par le biais de son père, en principe, et c'est ce qui se produit donc en 1151, à la mort de Geoffroy, doit lui échoir donc le comté d'Anjou.
Qui est un comté important?
Oui, c'est un comté très important dans le jeu politique de l'ouest de la France. Il y a trois ou quatre maisons qui dominent, si vous voulez, dans l'ouest. Ce comté est assez remarquable puisqu'il a, il a déjà des liens forts avec la Terre Sainte où, par exemple, le père de Geoffroy le Bel, à savoir le comte Foulque V, a eu des prétentions sur le royaume de Jérusalem. Ça n'est pas n'importe quel prince territorial français, le comte d'Anjou.
Donc ça, c'est pour le côté paternel.
Voilà. Alors, l'ascendance maternelle est encore plus importante puisque là, on a affaire à celle qu'on appelle l'impératrice Mathilde, donc, qui est en fait la fille d'Henri Ier Beauclerc, donc roi d'Angleterre, de la dynastie des ducs de Normandie au départ. Hein, c'est la famille donc de Guillaume le Conquérant. À la mort d'Henri Ier Beauclerc, il y a une querelle successorale très importante qui déchire complètement le royaume d'Angleterre entre Étienne de Blois d'un côté, qui finalement donc prend le dessus, et puis Mathilde qui est aidée d'ailleurs par les armes par son mari Geoffroy le Bel. Il se trouve qu'au bout d'une vingtaine d'années de guerre civile à peu près, on arrive à un accommodement politique en Angleterre, puisque Étienne de Blois, qui s'est emparé de la couronne, se dirige vers la vieillesse sans héritier. Donc il accepte finalement de faire d'Henri d'Anjou son héritier en 1153. Henri n'est plus simple comte d'Anjou. Il a épousé donc Aliénor d'Aquitaine.
Voilà, c'est là qu'entre en scène Aliénor d'Aquitaine.
Voilà, c'est là qu'elle rentre en scène. Donc un des plus beaux partis qui se puisse trouver en Occident, parce que là, pour le coup, il faut préciser que l'Aquitaine de l'époque, c'est la Grande Aquitaine pour nous, hein, c'est autour de ces deux capitales, Poitiers et Bordeaux. Donc on va inclure toute la Gascogne. Duché immense, il est extrêmement riche. Il a été mené d'une main ferme par toute une lignée de ducs, notamment donc Guillaume IX, le grand-père d'Aliénor, donc, qui est resté à la postérité comme le premier troubadour, hein, un duc lettré, si vous voulez. Bon,
cette union fait d'Henri II quelqu'un d'éminemment puissant.
Il est au carrefour de toutes les influences politiques, puisque en 1152, donc, il y a dans la vie d'Aliénor un tournant. Elle se sépare en fait de Louis VII, roi de France, donc son premier mari. Quelques semaines, ça se compte en semaines plus tard, donc elle épouse Henri d'Anjou. Donc pour cette époque-là, 1152, 1153, entre ce fabuleux mariage avec quelqu'un qui est de 10 ans plus âgé que lui et qui quelque part représente un mariage hypergamique, hein, si vous voulez, Aliénor est plus puissante politiquement que Henri, plus le traité de Westminster en Angleterre en 1153, Henri II est sur la rampe de lancement, enfin Henri d'Anjou, pardon, est sur la rampe de lancement pour devenir un très grand monarque à l'échelle de l'Occident. Et
c'est ce qui intervient en 1154, voilà, c'est ça. Il est couronné à l'abbaye de Westminster.
Voilà, il est couronné dans les formes à l'abbaye de Westminster, donc est reconnu par les grands d'Angleterre.
Et alors son épouse Aliénor est couronnée elle aussi, mais pour la deuxième fois, parce qu'elle était déjà reine.
Exactement. Le rituel n'est pas tout à fait le même pour elle par rapport à ce qu'elle a connu en France, mais Aliénor est reine pour la deuxième fois de sa vie.
Alors qu'est-ce que ça pèse tout ça face au roi de France?
Alors le roi de France, c'est le roi capétien, donc c'est Louis VII en 1154. L'ensemble Plantagenet pèse très lourd, évidemment, parce que le domaine royal capétien, c'est des terres donc autour de Paris, bien sûr. Un contrôle politique sur un certain nombre d'évêchés et d'abbayes qui sont puissantes, quelques terres également en dehors de la région parisienne. Mais par rapport à cela, l'ensemble Plantagenet, donc c'est cet assemblage entre la Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, le Poitou et puis l'Aquitaine, fait écharpe, si vous voulez. Ça représente une France atlantique qui est riche, qui est étendue, qui est bien peuplée et qui surtout communique extrêmement bien avec l'Angleterre et la mer d'Irlande. Donc pour Louis VII, tout l'enjeu, c'est de réussir à contrôler ce vassal.
Il y a une rivalité.
Alors, ça n'est pas qu'une simple rivalité, ça marche dans les deux sens. Il y a en fait, dans le gouvernement politique de l'époque, par le biais de la féodalité, une collaboration qui est recherchée par les grands entre eux, étant donné que le roi de France sait très bien qu'il ne peut pas seul gouverner le royaume. Il a besoin de s'appuyer sur ses grands vassaux, bon. D'où le rôle très important d'un certain nombre de maisons, maisons de Flandre, maisons de Normandie, maisons de Blois, maisons d'Anjou, maisons d'Aquitaine. Donc, Lorsque le roi des Francs donc, et ses vassaux réussissent à bien s'entendre, le royaume est équilibré, si vous voulez. Le problème, c'est qu'il faut constamment donner des gages, réitérer les engagements parce que les engagements sont personnels. Lorsqu'un grand feudataire du royaume vient à décéder, il faut que son fils vienne à nouveau prêter hommage au roi de France dans ses mains de façon publique.
Rien n'est
Donc
jamais acquis.
l'ordre public tient en fait à la force des personnalités, si vous voulez. Et donc il faut continuer à donner des gages, à assurer de son affection, de son amitié, etc. Et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes avec le Plantagenet, parce qu'il est certes vassal du roi de France, mais il est roi d'Angleterre, et quand il traverse la Manche pour revenir en France, il reste quand même un petit peu roi, si vous voulez. On ne peut pas faire comme s'il n'était pas roi.
À Maurice, j'aimerais qu'on précise un peu le découpage géographique de cet empire plantagenêt. On en a dit quelques mots concernant la partie française, mais on l'a dit aussi, cet empire, il est transmanche, c'est-à-dire que de l'autre côté de la Manche, sur le territoire anglais, cet empire s'étend aussi. Alors, quelles sont les limites de ce côté-là de la Manche?
Alors, les Plantagenêts se sont efforcés d'étendre leur pouvoir donc à l'échelle des îles britanniques par le biais des allégeances. C'est-à-dire que l'Angleterre est de loin la partie la plus riche, la plus dynamique des îles britanniques, la plus peuplée. Mais bien évidemment, comme leurs prédécesseurs normands, les Plantagenets se sont intéressés aux confins des îles britanniques, notamment parce qu'ils avaient besoin d'avoir les mains libres dans leur transport transmanche. Il était hors de question d'avoir des Écossais ou des Gallois remuant dans leur dos pendant qu'ils étaient occupés aux affaires françaises. Donc, ils ont développé un effort militaire important face aux Gallois, sans les soumettre complètement d'ailleurs. Face à l'Écosse, les Plantagenets ont aussi poussé. Là, c'était peut-être un petit peu plus facile. Donc, ils ont réussi à obtenir un traité avantageux. En 1174, si vous voulez, on peut considérer que la monarchie écossaise est quand même très largement contrôlée par le Plantagenet depuis Westminster. Et puis, donc, il y a l'affaire irlandaise qui repose au départ sur des paroles échangées entre le pape et puis Henri II sur une vague promesse de reconnaissance de suzeraineté du roi d'Angleterre sur l'Irlande à partir du moment où il fait l'effort pour accompagner l'Église de Rome dans l'homogénéisation, si vous voulez, du christianisme irlandais. Donc, pour 1170, 71, on peut considérer que l'Irlande est dans la main du Plantagenet. Donc, il y a une espèce d'empire intérieur, là, si vous voulez, qui est aussi à prendre en considération, parce que ça participe aussi du tribut et des contingents militaires, même s'il le faut, sur lesquels le Plantagenet peut compter.
La suite de l'histoire.
Tout ça sous-entend quand même un empire assez divers. Il n'y a pas tellement d'homogénéité, ne serait-ce qu'en termes de langue, en termes de mode de vie, de climat. Tout ça est très étendu.
Exactement.
Est-ce que
tout
ça
ça
complique
est
beaucoup
très
les choses?
Oui, c'est étendu depuis les confins de l'Écosse, donc le mur d'Adrien, si vous voulez, des Romains à peu près, hein, jusqu'aux Pyrénées, et depuis donc l'Irlande jusqu'à la région de Châteauroux à peu près. Le Plantagenet, en fait, représente la tête d'un empire qui n'a d'empire que le nom, véritablement. C'est-à-dire que c'est avant toute chose une construction personnelle.
C'est une mosaïque, en fait.
Voilà, c'est un patchwork. Quand on prend la titulature d'Henri II ou de Richard Cœur de Lion dans leur charte, on voit bien, moi, donc, Henri, par la grâce de Dieu, et commence l'énumération, donc, roi des Anglais, duc de Normandie, duc d'Aquitaine, comte d'Anjou, du Maine et du Poitou, etc., etc. Il y en a plusieurs lignes, vous voyez, comme ça. Donc, il ne s'agit pas d'amalgamer. Ça n'est pas possible, de toute façon. Alors, il a une pleine souveraineté, bien sûr, sous la couronne d'Angleterre. Donc là, il ne tient son royaume de personne. Mais en France, il tient son royaume du roi capétien. Il est à la tête de réseaux féodo-vassaliques qui sont très importants. C'est bien pour ça qu'on peut parler d'un empire personnel avec quand même un tandem très fort, qui est le tandem Angleterre-Normandie. C'est vraiment le moteur de cette construction qu'on a pu présenter comme un conglomérat.
Qui dit domaine très étendu, dit itinérance.
L'itinérance, oui, bon, elle est consubstantielle au pouvoir médiéval. Hein, c'est-à-dire que là,
on bouge beaucoup en Moyen-Âge.
Voilà, quel que soit le monarque, de toute façon, l'itinérance est le mode de vie d'un pouvoir, quel qu'il soit, qui a besoin de se montrer à ses peuples, qui a besoin aussi de pouvoir compter sur des ressources économiques différentes. Il se trouve que chez les Plantagenêts, l'itinérance est extrêmement poussée, puisqu'elle est donc transmanche, avec quand même, quand on étudie un petit peu les étapes des routes Plantagenêts qui se dégagent, des routes privilégiées, par exemple Southampton-Barfleur, ou bien Portsmouth-Barfleur, ou Douvres-Calais, si vous voulez, pour rentrer en France. Bon. Et bien sûr, un certain nombre de châteaux. Alors, il y a les châteaux comtaux, d'abord hérités, par exemple, des comtes d'Anjou, château ducal en Normandie. Et puis, il y a les constructions des Plantagenêts eux-mêmes, donc en Angleterre, celles qu'ils ont récupérées par héritage suite au règne de Guillaume le Conquérant et d'Henri Ier Beauclerc, donc la Tour de Londres, par exemple. Et puis, il y a tout un ensemble de résidences qui peuvent aller jusqu'au relais de chasse. C'est vrai que la cour, c'est trois choses, hein, quand on veut la définir. C'est bien sûr le lieu de résidence pour commencer, avec une dimension architecturale qui peut être tout à fait remarquable. C'est le centre politique et administratif de décision de la gouvernance. Et puis, c'est l'instance d'autorité qui représente un ensemble politique aux yeux des autres, à l'extérieur. Donc, par exemple, aux yeux de l'empereur germanique, aux yeux du pape, etc. Donc, du point de vue résidentiel, les Plantagenêts ont fait de gros efforts de construction, d'entretien. Et les itinéraires qu'ils ont suivis ont été très étudiés par les historiens. Ils ont été cartographiés. Ça montre des zones de prédilection, des zones où ils se plaisaient, où ils se sentaient chez eux et où ils étaient fréquemment de passage.
Avant de parler de leurs enfants, Amaury Chauhou, je voudrais qu'on parle du couple Henri II, Aliénor d'Aquitaine, deux fortes personnalités. Alors ce couple, comment est-ce qu'il fonctionne ?
Alors chacun a sa propre vue sur ce que doit être le pouvoir. Et par rapport à Henri II qui est un bâtisseur, qui est un meneur d'hommes, quelqu'un qui a besoin aussi d'être bien entouré par ses conseillers, etc., Aliénor est une femme de pouvoir, ça c'est certainement une de ses caractéristiques essentielles. Elle y a été habituée en Aquitaine, bien sûr, et puis aussi à la cour de France. Elle a ses propres réseaux, quelque part, ce que Henri, d'ailleurs, peut mal prendre par moment. On le voit très bien dans le contexte des années 1173-74, où Henri II, justement, n'envisageant pas sa construction politique comme susceptible de se pérenniser dans le temps, traîne, en fait, pour investir chacun de ses fils de pouvoirs conséquents. Donc, Aliénor s'empare finalement de cette maladresse politique d'Henri II pour retourner ses fils contre leur père, ce qui est le déclenchement de la grande révolte de 1173-74, dont on peut dire qu'elle est la grande œuvre d'Aliénor.
Elle va le payer
politiquement, puisque du coup, lorsque la révolte va être matée, Aliénor va être placée, on dirait nous, en résidence surveillée pendant 15 ans. C'est vraiment le décès d'Henri II et la montée sur le trône de Richard Cœur de Lion qui va permettre la libération, en quelque sorte, d'Aliénor. Mais il n'empêche que c'est une femme de tête qui a ses propres conceptions sur le pouvoir et ses propres outils.
Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un couple uni ?
Non, pas complètement. Enfin, il y a des points forts, si vous voulez. Les deux sont habitués à gouverner, ils sont bien entourés, etc. Mais on peut dire que plus l'âge avance, plus Aliénor, en fait, regarde l'avenir de ses territoires dans l'intérêt de ses fils, qu'elle commence à servir davantage que les intérêts d'Henri II lui-même, ce dont Henri II commence à prendre ombrage.
Est-ce qu'ils ont laissé des écrits l'un et l'autre ?
Des écrits de l'un à l'autre, si c'est ça le sens de votre question, moi je n'en vois pas. Mais, non, de l'un à l'autre, je ne vois pas. Mais des chartes de donation de l'un pour l'autre, oui. Alors ça, par exemple, bien sûr, d'Henri II en faveur d'Aliénor, il y en a. Oui.
Qu'est-ce que c'est des chartes de donation ?
Des chartes de donation, une fondation de telle ou telle chapelle ou telle priori pour que l'établissement prie pour le salut de l'âme d'Aliénor lorsqu'elle sera décédée. Ou à l'inverse, hein, puisque c'est Henri II finalement qui est décédé en premier, donc on connaît à peu près tous les agissements d'Aliénor pour décider de l'inhumation de Henri II à Fontevraud, alors qu'au départ, dans ce qu'on considère comme le testament d'Henri II, lui-même n'avait pas du tout Fontevraud en tête. Hein, son premier souhait lors d'un épisode de maladie douloureux, donc dans les années 1170, c'était le prieuré de Grandmont en Limousin. Donc c'est l'inhumation d'Henri II à Fontevraud est vraiment l'affaire d'Aliénor.
Amaury Chauhou, Aliénor d'Aquitaine et Henri II ont eu de nombreux enfants, 9 a priori. 7 d'entre eux ont vraiment marqué l'histoire. 4 garçons, 3 filles. D'abord, il faut rappeler à quel point c'est important pour un roi et une reine, surtout d'avoir des enfants.
Tout à fait, surtout que le mariage d'Aliénor et de Louis VII, roi de France, a éclaté donc sur ce problème de la descendance, hein, puisque Aliénor donc n'avait pas apporté à la cour de France de descendance masculine. Donc là, pour le coup, avec Henri II, on voit les premières naissances de garçons intervenir très très rapidement. Donc c'est un très heureux présage pour le couple royal, présage pour lequel on se félicite jusqu'à Rome, bien évidemment.
Alors les garçons, qui sont-ils ?
Alors les garçons, il y a donc Henri, qu'on va surnommer Henri le Jeune, hein, pour bien donner le
différencier
le portrait,
de son père.
Donc voilà, qui donc va lui-même être couronné roi en 1170, sauf que son père ne va pas le doter des moyens nécessaires, notamment des moyens financiers, pour véritablement entrer dans ses pouvoirs. Donc Henri le Jeune va devenir un roi de papier, ce qu'il va très mal vivre, ce qui va l'amener à se lancer dans des comportements finalement assez provocants vis-à-vis de son père, et ce qui va déboucher au final sur une mort assez tragique. Il y a le deuxième, donc Richard, cœur de lion, donc qui lui est le fils préféré d'Aliénor d'Aquitaine. Il a vraiment une particularité, c'est que c'est le seul à être vraiment élevé à la cour de Poitiers en grande partie. Il manie la langue d'oc. C'est vraiment un prince français de sensibilité méridionale, on pourrait dire. Il détonne un peu par rapport à ses frères, notamment par rapport à son frère aîné. Il y a Geoffroy de Bretagne.
Il sera roi d'Angleterre, hein, Richard, cœur de lion.
Richard, bien sûr. Richard, à l'issue du décès d'Henri II, puisque Henri le Jeune est décédé en 183. Lorsque Henri II décède au château de Chinon, celui qui monte sur le trône, c'est Richard Cœur de Lion, du coup, pour 10 ans. Donc Aliénor, là, est ravie, puisque c'est son fils préféré qui monte sur le trône, et Richard va bien le lui rendre, hein, de son affection à Aliénor.
Alors
le troisième c'est Geoffroy de Bretagne, qui est investi du duché de Bretagne, donc à la suite de manœuvres politiques assez complexes d'Henri II, mais qui sont extrêmement judicieuses, jouant donc des divisions entre maison de Rennes, maison de Nantes, pour imposer donc un prince extérieur au départ au duché sur le trône ducal. Donc ça fonctionne. Geoffroy donc est duc de Bretagne en 169. Et puis donc il y a le petit dernier.
Jean.
Voilà. Alors
Jean
c'est un personnage à lui tout seul. Qui reste en partie énigmatique, hein. C'est lui qui pâtit certainement de la pire des légendes noires des rois médiévaux. Bon, il est clair qu'il a effectivement un passif assez lourd, mais par rapport à Henri II, si vous voulez, le bâtisseur, par rapport à Richard Cœur de Lion, le conquérant, le guerrier, Jean, c'est un administrateur, c'est quelqu'un qui est d'une haute culture, il a eu une éducation extrêmement soignée. C'est quelqu'un qui est un bon administrateur. Ça peut paraître curieux de dire ça, sauf qu'il n'a pas été un vrai meneur d'hommes. Donc il a eu beaucoup, beaucoup d'opposition contre lui et qui finalement l'ont mené à sa perte.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Au Moyen-Âge, on accole comme ça au prénom un adjectif ou quelque chose qui le qualifie d'une manière ou d'une autre et qui dit quelque chose soit de son règne, soit de son tempérament.
Oui,
Cœur
en
de
fait,
Lion,
les.
Le
Oui,
Jeûne, Santerre.
c'est d'époque. Ce ne sont pas d'ailleurs des épithètes tardives, si vous voulez. Si on prend Jean Santerre, ça s'explique très bien. Il faut, parce que c'est un jeu de mots, en fait, d'Henri II, vis-à-vis de son fils. Il faut remonter à 1169 et à l'entrevue de Montmirail pour comprendre. Henri II, donc, est en présence de Louis VII, roi de France, avec ses trois fils les plus âgés, pour réitérer donc les hommages. Hommage d'Henri, l'aîné des trois, pour la quasi-totalité de l'héritage maternel, hein, donc Angleterre, Normandie, etc. Donc il faut prêter hommage, donc non pas pour l'Angleterre, bien sûr, au roi de France, mais il faut prêter hommage pour la Normandie. Hommage de Richard pour le Poitou, l'Aquitaine. Hommage de Geoffroy pour la Bretagne, dans les mains de Louis VII. Et puis il y a le petit dernier, qui n'est pas là, ce jour-là, l'entrevue de Montmirail, qui s'appelle donc Jean, et de cette absence, si vous voulez, alors qui sera dédommagée par le don de trois châteaux dans la région de la Loire, va naître le qualificatif Santerre. Voilà.
Et Cœur de Lion, pour Richard,
À Cœur de Lion,
en
c'est
quelques
parce
mots.
que Richard est, dès l'âge de 16 ans, 17 ans, très très connu comme un formidable meneur d'hommes. Donc il a déjà eu
Courageux.
affaire à il a déjà eu affaire à un certain nombre de féodaux récalcitrants du côté du Poitou, du côté de la Saintonge, de l'Angoumois, etc. Il a déjà les ferraillé avec les enfin, contre les principales maisons et a déjà montré toute l'étendue de sa bravoure. Donc c'est quelqu'un qui a une science de la guerre de siège notamment qui est absolument remarquable. Et ça ne sera que confirmé par la suite lorsqu'il accomplira des exploits donc assez invraisemblables en Terre Sainte, hein, qui vont forcer l'admiration de tout le monde, y compris des musulmans.
Alors parlons des filles maintenant. Trois.
Alors, les princesses Plantagenet, c'est certainement ce sur quoi les historiens travaillent le plus en ce moment.
Pourquoi?
Et de façon toute. Parce qu'elles ont peut-être été un petit peu délaissées pendant longtemps. Et c'est vrai que le genre d'écriture historique qu'on appelle donc les gender studies amène de façon heureuse à reconsidérer un petit peu la personnalité des trois comme n'étant pas finalement des personnalités secondaires. Il y a donc Mathilde, l'aînée des trois filles, Mathilde d'Angleterre, donc qui va être mariée donc à Henri, donc le Lion, hein, duc de Brunswick,
Là encore, un
un des principaux
qualificatif.
vassaux, voilà, un des principaux vassaux de l'Empire germanique. Donc elle va vivre en partie en exil en fait à la cour Plantagenet en raison des démêlés de son mari donc avec une famille rivale pour le contrôle donc du trône impérial allemand.
C'est la mère quand même de Othon IV, hein, qui sera
C'est
empereur
la mère
romain
d'Othon IV.
germanique.
Voilà, c'est la mère d'Othon IV de Brunswick qu'on va retrouver à la bataille de Bouvines, hein, puisqu'il il représente en fait les contingents allemands que Jean Santerre donc a approché. Jean Santerre a beaucoup payé, hein, même s'il n'était pas lui-même présent donc à la bataille de Bouvines. C'est lui qui a
Financé.
ordonnancé, oui, financé et ordonnancé cette campagne en France pour déstabiliser complètement Philippe Auguste. Donc Othon de Brunswick, c'est le neveu de Richard Cœur de Lion et le neveu de Jean Santerre. Mais
Ensuite, il y a Aliénor, la
alors il y
deuxième
a
des
Aliénor,
filles.
la deuxième des filles, donc qui elle va être mariée très jeune. Hein, toutes ces princesses Plantagenet sont mariées à l'âge de 11-12 ans à peu près et font le voyage donc à l'étranger. Donc mariée donc à l'héritier du trône de Castille. Ce qui fait que le gisant donc d'Aliénor aujourd'hui est toujours Aliénor Castille est toujours visible donc dans l'environ de Burgos. Et puis il y a Jeanne Plantagenet, la petite dernière, alors qui elle a fait un mariage un peu compliqué puisque elle a été mariée donc à Guillaume II de Sicile dans des années difficiles au moment où en fait voilà le pouvoir de Guillaume II n'est pas très assuré et puis surtout il va décéder jeune. Donc elle se retrouve veuve, elle-même, très jeune, en Sicile, dans une cour qu'elle ne comprend pas bien, avec beaucoup, beaucoup d'intrigues, une atmosphère de complot quasi permanente. Donc, une des missions de Richard Cœur de Lion sur la route maritime de la troisième croisade, ça va être en gros d'aller organiser le sauvetage de sa petite sœur en Sicile, d'où la halte de la flotte des croisés, donc dans le port de Messine, pour reprendre le contrôle. Et Jeanne va donc faire partie de tout cet équipage de la troisième croisade, le temps que son frère donc traverse la Méditerranée.
Tous ces mariages, ce sont vraiment des alliances en vue de, bah, d'étendre des territoires et d'asseoir un pouvoir.
Oui, il s'agit de s'assurer des appuis à l'étranger, avec des cours, si possible, proches, pouvant fournir des avantages matériels ou, on dirait nous, géopolitiques importants à l'époque. Donc, c'est flagrant avec la cour de Sicile. Il ne faut jamais oublier que la monarchie de Sicile, au départ, est une monarchie normande. Donc, quelque part, on peut considérer que c'est un petit peu une monarchie cousine de la monarchie d'Angleterre. D'ailleurs, on aime bien comparer les deux parce que du point de vue de la sophistication administrative, des techniques, si vous voulez, de gouvernement, on se rend compte qu'il y a des points communs entre les deux. Donc, les Plantagenets ont besoin de points d'appui à l'étranger, surtout que l'Angleterre est un petit peu excentrée, hein, par rapport
Au
au
reste de
continent.
l'Europe.
Donc, voilà, donc il faut jamais oublier cette dimension insulaire. Donc, pour Westminster, pour le centre politique, voilà, il faut pouvoir avoir des relais fiables. Donc, les mariages sont des mariages diplomatiques, oui.
À Mauritshuhu, cette famille Plantagenet, ses frères et sœurs, ses parents, ce couple, ce sont aussi, on l'a dit, des pouvoirs, des intérêts pas toujours convergents. Et il y a donc des oppositions, des stratégies et même une révolte que vous avez rapidement évoquée précédemment et qui intervient en 1173. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette politique qui est menée par les uns, par les autres et de la façon dont les pouvoirs respectifs sont protégés?
En fait, à la tête de l'État Plantagenet, des États, on peut considérer que le souverain lui-même, bien sûr, a une vision assez claire de ses responsabilités, de ce qu'il veut faire, mais il ne peut pas gouverner seul. Il est obligé de beaucoup s'entourer, et c'est là qu'on peut voir intervenir des stratégies qui peuvent être divergentes, voire carrément conflictuelles.
Opposé.
Oui, il faut bien voir d'abord que le Plantagenet, quel qu'il soit, c'est vrai du début à la fin des 70 ans à peu près d'histoire, parce qu'il est à la tête d'un empire transmanche, est très souvent absent, soit d'un côté de la Manche, soit de l'autre côté, et donc obligé de faire confiance, est obligé de se reposer sur un certain nombre d'allégeances et sur un certain nombre d'hommes qui sont entrés dans des métiers de l'office par rapport à lui,
Pour faire tourner les
donc
affaires,
pour faire tourner les
pas
affaires,
pendant
exactement.
son
Voilà.
absence. Oui.
Il doit avoir un ou plusieurs bras droits. Donc en Angleterre, par exemple, c'est celui qu'on va appeler le grand justicier. C'est une institution qui est propre à l'Angleterre. Il n'y a pas de grand justicier pour les Plantagenets du côté des domaines français. Mais le grand justicier d'Angleterre, c'est un personnage absolument incontournable qui est ch toujours choisi avec un très très grand soin. C'est le visage du roi lorsque le roi n'est pas là, si vous voulez.
Mais ça donne lieu à des déloyautés quelquefois ou à des trahisons?
Alors, tout à fait. C'est-à-dire que par rapport donc aux grands du royaume d'Angleterre ou aux grands feudataires donc dans les vassaux français qui s'estimeraient mal récompensés des efforts ou des engagements qu'ils font pour le Plantagenet, peut naître l'amertume, peut naître la colère, surtout que les Plantagenets sont très exigeants du point de vue militaire, du point de vue fiscal. Ils ne ménagent pas leurs hommes, étant donné qu'eux-mêmes ne se ménagent pas. Bon. Donc, on a vu comme cela, soit de façon individuelle, soit, et c'est beaucoup plus dangereux, bien sûr, de façon collective, des hommes puissants prendre contact entre eux et se liguer pour essayer de déstabiliser le pouvoir du Plantagenet et l'amener à plus de compromis. Hein. quel qu'il soit, le Plantagenet est un homme à poigne, il ne peut pas faire autrement, si vous voulez. Bon.
Homme
mais
à poigne,
temps qu'il est à poigne
ou femme à poigne, parce que en l'occurrence, la révolte de 1173, elle est quand même fomentée par Aliénor contre son propre mari.
Tout à fait, mais il faut bien voir que derrière le complot politique d'Aliénor, ce sont en fait des domaines géographiques entiers qui sont en train de réagir à la pressurisation militaire et fiscale, même par rapport à certaines exactions du point de vue judiciaire que Henri II a ourdi. Donc, quand on regarde quels sont les territoires de la révolte, on se rend très bien compte qu'elle est née donc en Normandie principalement. Elle se répand très bien aussi de l'autre côté de la Manche, dans les terres anglaises du sud et de l'est de l'Angleterre, jusqu'à Lincoln, si vous voulez. Alors qu'à côté de ça, il y a des portions entières de l'Empire Plantagenet qui ne bougent pas.
Bon. Mais pourquoi Aliénor fomente ça? Quel est son intérêt à elle?
Son intérêt à elle, c'est de privilégier ses fils, donc notamment Henri le Jeune, qui en 1170 a été couronné, et qui, tel quel, n'a pas les moyens, en fait, d'être un vrai roi. C'est quelqu'un qui a pourtant sa propre cour, qui a son propre entourage politique, mais il n'a pas la pleine puissance, si vous voulez, d'exécution des actes qu'il peut opérer. Aliénor ne peut pas contrôler comme elle le voudrait ce qui se passe en Normandie, ou même chose pour Richard en Poitou, si vous voulez.
Mais attendez, parce que Henri le Jeune a été couronné alors que son père est encore vivant?
Voilà, il est roi associé, si vous voulez, à la couronne d'Angleterre.
Mais il n'a aucun pouvoir réel.
Mais il n'a aucun pouvoir réel, exactement. Il a pourtant un sceau, mais le sceau n'a vraiment pas la même dimension que le sceau d'Henri II Plantagenet. Donc, quelque part, c'est un roi factice, ce qui a été très très bien expliqué lorsqu'on a décrit à l'envi donc, la vie de tournoi en tournoi, la vie de festivité en festivité d'Henri le Jeune donc, dans le nord de la France. C'est quelqu'un qui tue le temps et qui en même temps complote aussi contre son père. Ce qui fait que lorsqu'il y a des clientèles qui viennent le trouver depuis la Normandie ou depuis le sud de l'Angleterre pour essayer de porter le fer contre son père, Henri le Jeune est manipulé et il tombe dans le panneau. Ça déclenche cette fameuse révolte de 1173-74.
Qui aura quelle issue, cette révolte?
Alors, elle est très très dure, hein, parce que les contingents militaires qui sont soulevés sont très nombreux. En plus, il y a recours à des mercenaires. Il faut imaginer que vous avez là l'effort conjugué d'Henri le Jeune, de Richard Cœur de Lion, de Geoffrey de Bretagne qui s'en mêle aussi.
Les trois frères, donc, si, contre leur père.
Voilà, donc, alors, et surtout l'entourage, hein, parce que Geoffroy est un adolescent, si vous voulez, à cette époque-là. Mais c'est surtout Henri et Richard qui mènent le combat, donc... Il faut imaginer derrière des vassaux très très bien équipés militairement qui s'organisent entre eux en plus pour porter le fer soit en Angleterre, soit en Normandie de façon à disloquer les répliques militaires possibles. Donc Henri II a accompli des exploits à cheval pour essayer de reprendre en main la situation. On a calculé qu'il a pu certains jours parcourir plus de 150 km à cheval. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie pour être là où il faut. Et finalement, militairement, il s'en sort.
C'est-à-dire qu'il est vainqueur ?
Il est vainqueur, oui. Il est vainqueur. On peut considérer que pour le début 1174, l'affaire est finie. C'est en fait une grande victoire qu'il remporte contre le roi d'Écosse, puisqu'en plus, le roi d'Écosse s'est allié évidemment aux frères Plantagenet pour porter le fer donc, contre le père. C'est cette grande victoire donc, du début 1174.
Mais ça a quand même dû, si vous me permettez, mettre un petit coup dans l'aile au niveau familial, non? Entre les frères entre, et le père et la mère.
Bien sûr, il est clair que le prestige d'Henri II en sort affaibli. Alors, soyons clairs, le prestige d'Henri II en 1173 n'est plus ce qu'il était au début de son règne, étant donné qu'avant 1173, il y a déjà eu la très grave affaire Thomas Becket.
D'un chant du XVe siècle composé en l'honneur de Thomas Becket.
La suite de l'histoire.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Thomas Becket?
Alors Thomas Becket, il faut, oui, il faut revenir à l'itinéraire du tandem Henri II Becket, hein, puisqu'au départ Becket est le fils de bourgeois de Londres qui rentre jeune donc au service administratif d'Henri II comme chancelier. Donc c'est quelqu'un qui sert en fait l'administration royale d'Henri II, parce que quelque part Becket a été le favori, c'est quelqu'un qui a été gratifié de tous les honneurs possibles par son maître, bon, jusqu'à ce que l'idée prenne Henri II de faire de son chancelier l'archevêque primat d'Angleterre, d'en faire donc un homme de Dieu, celui qui va représenter l'église d'Angleterre à Londres et à Rome encore plus, un rôle que Thomas Becket va prendre à cœur, qui va l'éloigner bien sûr de tout esprit de soumission vis-à-vis de la couronne d'Angleterre, parce qu'on est dans le siècle de la réforme grégorienne, de la réflexion donc sur les libertés de l'Église par rapport au pouvoir séculier. Donc Becket ne va avoir de cesse de se battre contre ce qu'il considère comme des empiétements de la monarchie d'Angleterre dans le fonctionnement de l'Église d'Angleterre, et notamment celle de Canterbury. Et donc on va aller à l'affrontement des hommes, on va aller à la division de l'Église d'Angleterre entre les pro-Becket d'un côté et les pro-Henri II de l'autre. On va aller à l'exil de Becket en France, hein, pour essayer de calmer le jeu. Bon, il y aura plusieurs tentatives de conciliation entre les deux. Et puis, finalement, il y a cette affaire donc, du 29 décembre 1170, où, alors que pourtant des mots d'apaisement avaient été échangés, et il paraissait possible d'arriver à un accommodement. Donc le 29 décembre 1170, finalement, Thomas Becket, archevêque, est assassiné dans sa cathédrale par quatre hommes dont l'esprit a été agité par des mots extrêmement véhéments d'Henri II qui aurait dit donc mais qui donc me débarrassera de ce prêtre turbulent.
Donc ils ont pris ces mots au pied de la lettre.
Ils ont pris ces mots au pied de la lettre lorsque Henri II publiquement a fait part de son immense déception face finalement à l'attitude ultra-intransigeante de Becket, alors qu'il pensait que Becket allait rentrer en Angleterre, au contraire, pour des accommodements.
Alors pourquoi dites-vous donc que là, c'est une grosse affaire
le sang d'un archevêque coule dans sa cathédrale. Vous imaginez bien l'émotion absolument considérable. C'est une tâche indélébile sur l'honneur d'Henri II.
Qui va porter longtemps cette tâche.
Bien sûr, qui a toujours passé pour un rude meneur d'homme, hein, quelqu'un qui n'a jamais ménagé son entourage, mais là, ça dépasse les bornes.
Donc, il s'en relèvera quand même.
Alors oui, parce que c'est quand même le roi d'Angleterre, donc il fait pénitence, il donne des gages, il envoie des émissaires à Rome tout de suite pour essayer d'amadouer un petit peu le pape, etc. Donc il fait des fondations pieuses, on le voit de façon très spectaculaire venir faire pénitence à Avranches, se faire fouetter publiquement, etc., puis aller pleurer sur le tombeau provisoire de Becket, donc il n'a rien à voir avec le tombeau d'aujourd'hui, hein, qui est largement postérieur. Mais pour ce qui est du premier lieu d'inhumation de Becket, Henri II, oui, est allé spectaculairement se
mortifier,
jeter sur
quoi.
Cette tombe. Voilà, se mortifier. Et donc ça va durer comme ça, 2-3 ans. Donc en 1173, quelque part, lorsque la grande révolte est déclenchée, elle est, comme par hasard, déclenchée contre un homme qui est affaibli. Vous voyez, il n'a plus le même crédit quand même qu'avant 1170.
Et 1173, c'est aussi l'année de canonisation de Thomas Becket.
Tout à fait, c'est l'année de canonisation de Becket. C'est une canonisation record. Hein. Il y en a très très peu à l'échelle du Moyen-Âge qui a été opéré aussi vite. Alors, l'astuce des Plantagenets, enfin Henri II, ayant été quelque part de s'associer au démarrage du culte de Becket, et quelque part on peut dire que sur le long terme, les Plantagenets ont finalement favorisé ce culte.
Cette cour Plantagenet à Moréchaux, elle est également connue pour son rapport à l'art, aux arts, à la culture, à un certain art de vivre peut-être, à un mode de vie. Par quoi est-ce qu'on commence?
Peut-être le mode de vie, parce que c'est vrai
parce que ça explique aussi le lien à la culture.
Oui, c'est vrai que la cour a été très très étudiée sous l'angle donc des protections, du patronage que le couple royal Henri II Aliénor a pu accorder à un certain nombre d'hommes de lettres. Elle a été très étudiée sous l'angle des productions, que ce soit donc des chroniques, des vies de saints, ou bien donc d'autres ouvrages de nature plus polygraphe. On peut aussi ici faire une place à l'importance de la littérature orale, qui est certainement à mettre en relation avec la personnalité d'Aliénor, étant donné que elle a été habituée dès son enfance à au séjour donc des troubadours à la cour de son père. Son grand-père donc est resté à la postérité comme un des premiers troubadours. Donc il en est resté quelque chose de l'activité des jongleurs, des troubadours, avec son mariage avec Henri II. Alors, sachant que en plus, là, pour le coup, on ne peut pas résumer cette activité de littérature orale au domaine de Languedoc, puisque il y a un certain nombre de conteurs et de jongleurs bretons ou gallois, parce qu'il y a une très importante littérature galloise à l'époque, plus des trouvères donc de France du Nord qui fréquentent aussi cette cour. Donc, cette cour est habituée à entendre chanter, à entendre de la poésie lyrique. Elle est habituée aux nouveautés du point de vue thématique. Elle fait bon accueil, par exemple, aux personnages du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Donc, elle n'a absolument pas inventé, si vous voulez, hein, le roi Arthur, c'est quelque chose qui est hérité de la cour anglo-normande de la génération qui a précédé celle d'Henri II et d'Aliénor. Bon.
Mais cela
Mais
réapproprie
voilà,
cette histoire.
les Plantagenets comprennent tout l'intérêt qu'il y a à acclimater à leur cour cette histoire, donc qui se présente de façon un petit peu romancée, bien sûr, hein, acclimater cela à leur cour parce que ça permet de s'inscrire dans la prestigieuse postérité des anciens rois bretons, tout ce qui est des potentialités que ça ouvre aussi en matière de revendications territoriales à l'échelle des îles britanniques, etc. Ça, les Plantagenets l'ont très bien compris. Et on peut considérer que pour 1170, à peu près, il existe un véritable arthurianisme entretenu à la cour Plantagenet. Et qui a des ramifications très importantes. En même temps qu'on célèbre un petit peu Arthur, on célèbre les chevaliers de la Table Ronde, on célèbre Tristan, qu'on peut un petit peu annexer, vous voyez? On a là des traces d'un certain nombre de pièces poétiques qui ont été chantées à la cour des Plantagenets, donc des lais tristaniens, comme on dit, et ça participait de l'ambiance d'une cour seigneuriale portée aux dimensions de cour royale. C'était quelque chose qui était très apprécié.
Et cette cour, elle était nombreuse, elle rassemblait beaucoup de personnes, vous l'avez dit au début de cette émission, en précisant
Oui.
d'ailleurs que les gens venaient de milieux sociaux assez variés.
Oui, donc elle n'est pas fixe, hein. Bien sûr, ça dépend un petit peu de l'itinérance qu'elle est en train de suivre, mais il faut imaginer qu'il y a là donc trois cercles différents. Il y a d'abord les gens de la parenté, hein, les plus proches, donc les enfants du couple royal Henri II, Aliénor. Il peut y avoir donc la mère d'Henri II, l'impératrice Mathilde, jusqu'à son décès, milieu des années 1160. Il y a tous les conjoints de ses enfants. Bon, voilà le premier cercle, avec les serviteurs de ce premier cercle. Ça commence déjà à faire du monde. Bon, il y a les officiers ensuite qui accomplissent donc le travail administratif, le travail juridique, le travail comptable, etc. Bon, qui suivent aussi pour tout ce qui est de rendre des actes, hein, il faut imaginer la somme impressionnante de brefs, de mandements royaux, de chartes qui sont émis par cette cour, même en pleine itinérance. Donc ces officiers viennent principalement des milieux de la moyenne et petite chevalerie, soit anglaise, soit normande. Il peut arriver même qu'il y ait des gens qui se succèdent, là, d'oncle en neveu, de père en fils. Mais il y a de très très belles carrières à faire à la cour Plantagenet, et certains l'ont très très
Ont
bien
bien
compris.
compris.
Oui, tout à fait. Et puis il y a le troisième cercle, celui des grands féodaux. Donc, bien sûr, côté français, mais il n'empêche qu'il y a des grands dignitaires, si vous voulez, de l'aristocratie anglaise, qu'on voit très bien, par exemple, lors du sacre de Richard Cœur de Lion. Il porte le dais royal ou il porte le glaive. Ces hommes ont vocation à aider le roi d'Angleterre dans sa mission. Donc, ils participent à son conseil. Le roi se repose sur eux pour obtenir donc des avis éclairés, tester un petit peu, débattre, peser le pour et le contre. Et ils amènent aussi, bien sûr, des contingents militaires. Donc ces hommes du troisième cercle, les grands féodaux, ont quelquefois tendance à regarder ceux du deuxième cercle, les officiers, comme des parvenus, si vous voulez. Il n'empêche que pour le Plantagenet, c'est un moyen de gouverner très, très complémentaire.
Mais s'il y vaille, mais elle tourne l'emprise, que de ça il y chaille. Mmh.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Il y a une proximité entre le roi, ses vassaux, ses grands féodaux. Ils vivent ensemble.
Oui, bien sûr.
Il y a une familiarité même.
Bien sûr, il y a une dimension de proximité, y compris physique, hein, pour ce qui est de banqueter, d'échanger des gestes d'amitié, dormir dans le même lit, partager le repas à même peau et à même feu, on dit. Ça se voit notamment très bien lors des excès qui ont pu être commentés par un certain nombre d'adeptes de la littérature anticuriale. Ces beuveries, il n'y a pas d'autre mot, des Plantagenets accompagnés de leurs grands dignitaires ou de certains de leurs officiers, parce que on connaît, c'est assez formidable, on connaît les quantités de vin qui ont pu être bu dans certaines circonstances à la cour Plantagenet, ou les quantités de chandelles qui ont pu être brûlées la nuit dans certaines résidences. On connaît le nombre de prostituées qui ont pu être introduites à la cour pour les suivre sur tel ou tel itinéraire. Les Plantagenets étaient adeptes de certains excès de tables et de chair, ça c'est clair. Hein. Ils vivaient de façon intense.
Débridée.
Ah oui. Ils avaient pourtant un très fort entourage ecclésiastique, mais ils savaient s'en affranchir de temps en temps. Oui.
Alors, Amaury Chaou, dans le titre de votre livre, vous indiquez deux dates qui sont en quelque sorte les bornes de cette histoire que nous évoquons, 1154-1216. 1216, c'est la fin du règne de Jean sans Terre. En quoi est-ce que cette date, elle est significative, disons?
Parce que le pouvoir des Plantagenets se retrouve désormais presque complètement repoussé du côté anglais. En fait, il va rester donc des morceaux de France anglaise après 1216, hein, du côté de la Saintonge, du côté de Bordeaux, etc. Et la France anglaise est quelque chose qui va durer plus ou moins jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans. Il n'empêche qu'en 1216, c'est la minorité d'Henri III qui démarre. Et là, pour le coup, avec les derniers mois du règne de Jean sans Terre, on a un pivot qui est en train de s'introduire dans le gouvernement de la monarchie avec un Plantagenet qui est moins puissant, qui a moins dans la main sa grande aristocratie.
Et qui perd des territoires, du coup?
Alors, il en perd en France, bien sûr. Ils ont été perdus donc déjà en 1204 avec la perte de la Normandie, donc du Maine de l'Anjou et de la Touraine. Et puis encore plus après donc le 27 juillet 1214, la bataille de Bouvines, là il y a une confirmation de la mainmise de Philippe Auguste sur ces territoires qui étaient pourtant des territoires vitaux pour les Plantagenets. Donc il y a une rétractation, un rétrécissement de la France anglaise entre 1204 et 1214 qui est manifeste, si vous voulez. Hein. On retrouvera Henri III en France du côté de Taillebourg, de Sainte, etc., etc., puis bien sûr jusqu'à Bordeaux, mais ça n'est plus qu'une frange de ce que c'était.
Mais la dynastie donc, Plantagenet, elle se poursuit avec Henri III et sa descendance.
Voilà, elle se poursuit, mais elle se poursuit vraiment du côté anglais, c'est-à-dire que ces princes français deviennent de plus en plus des princes anglais, résidant donc désormais massivement en Angleterre, alors que, par exemple, Richard, cœur de Lion, pendant les 10 années de son règne, n'a passé que 6 mois en Angleterre. Tout le reste, c'est en France ou en Terre Sainte ou en captivité en Allemagne. Mais Richard a été un roi presque de passage en Angleterre même. Heureusement qu'il avait son grand justicier pour le représenter.
Et donc à partir de 1216, un glissement s'opère vraiment du côté anglais.
La monarchie Plantagenet est repoussée du côté anglais. Et dans le rapport de force entre le roi et son grand baronnage et ses officiers, c'est le grand baronnage qui est en train de prendre des forces. On l'a vu avec la Grande Charte, la Magna Carta donc de 1215, qui a été donc une opération de déstabilisation du pouvoir de Jean sans Terre, donc dénoncé comme tyrannique, puisqu'il il avait effectivement énormément pressuré fiscalement donc le royaume pour la perspective de la bataille de Bouvines. Donc quelque part, il paye la note et il y a une collusion contre lui entre le grand baronnage anglais, la commune de Londres, les bourgeois donc organisés en commune, et puis donc l'église de Canterbury qui n'en peut plus d'un roi qui lui paraît avoir complètement renoncé à toute dimension honorable sur terre, si vous voulez, qui paraît complètement aux antipodes de serment de son sacre. Donc cette grande charte des libertés d'Angleterre, hein, qui est un texte absolument fondateur pour tout ce qui est donc de la tradition du droit constitutionnel anglais, hein, notamment le principe du consentement à l'impôt. Et puis donc le principe d'un embryon de parlementarisme en Angleterre, l'idée que la délibération politique est quelque chose qui doit être approuvé par les barons et pas simplement exposé par le roi pour obtenir un consentement de pure forme, si vous voulez.
cette grande charte de 1215 va rester. Et bien sûr, même si Jean Santerre la refuse dans un premier temps, elle va rester et elle va dominer le mode de fonctionnement du royaume d'Angleterre au XIIIe siècle. Donc Henri III est quelqu'un qui va être par la suite obligé de s'y plier, si vous voulez.
Votre livre s'appelle « Les Plantagenets et leur cour 1154-1216 » à Maurice Chauhou. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de cette émission.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes historien médiéviste et que vous êtes donc un des spécialistes de cette dynastie Plantagenet. Merci à Christophe Morague qui assurait la technique du côté de Lyon et à Xavier Jean qui, lui, était à RCF Alpharène.